Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 7h30 en temps universel, 10h30 à Addis Abeba.
Pierre Boudias.
Et le M23 poursuit son avancée dans l'est de la République démocratique du Congo. Des éléments de la milice soutenue par le Rwanda sont entrés dans la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Les dernières informations dès le début de ce journal. Les candidats à la présidentielle gabonaise auront 14 jours pour convaincre. C'est la durée officielle de la campagne pour le scrutin du 12 avril. Décision par décret du gouvernement de transition. Après la justice militaire qui a bassiégé devant les tribunaux civils, l'opposant ougandais a comparé hier pour l'organisation de manifestations en 2022, retour devant les magistrats malgré l'annulation de la procédure engagée contre lui par l'armée. Et puis 5 ans après, toujours pas de coupable désigné dans les massacres de Ngarbou au Cameroun. L'attaque sur un village de la région séparatiste anglophone avait fait une vingtaine de morts. Human Rights Watch appelle les autorités à faire toute la lumière sur les responsabilités. Le M23 poursuit donc sa progression dans le sud Kivu. Des combattants de la milice soutenue par le Rwanda sont désormais signalés à Bukavu, capitale de la province située dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils avaient auparavant pris le contrôle de l'aéroport et des zones avoisinantes. Bonjour Patient Ligodi.
Bonjour Pierre.
Et ce matin, la ville est plongée dans l'incertitude. Ses habitants vivent dans la peur.
Des tirs retentissent encore dans certains quartiers de la ville, aux abords du camp militaire Sayo, aussi vers la place appelée Major Vangu, dans la commune d'Ibanda. Des tirs une grande partie de la nuit et encore ce matin, il y a une heure, une forte détonation a été entendue non loin du bureau de la 33e région militaire. Qui contrôle la ville? Difficile à dire à ce stade. Un habitant joint ce matin témoigne: on entend des tirs, mais on ne sait pas s'il s'agit de combats ou des militaires en débandade. Dans la ville, l'incertitude domine. La plupart des habitants restent terrés chez eux. Dans certaines zones comme à Kadutu, au sud du centre-ville, quelques jeunes tentent de sortir pour observer la situation. Hier soir, quelques scènes de pillage ont été signalées, particulièrement à la place de l'Indépendance.
Patient Ligodi, merci pour toutes ces précisions. Et face à la situation, le président congolais est rentré en urgence à Kinshasa hier depuis Munich, où il participait à une conférence sur la sécurité. Félix Tshisekedi a rejeté toute négociation avec le M23 et dénoncé les velléités expansionnistes de Kigali. L'occasion également d'accuser son prédécesseur Joseph Kabila d'être le véritable instigateur de la situation actuelle. Le chef de l'État qui annule par ailleurs sa participation au sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi, et il appelle à une mise à l'index du Rwanda. Et conséquence directe de ces combats, une dégradation catastrophique de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alerte lancée par l'ONG Oxfam, selon qui la destruction des sites de déplacés à Goma dans le nord Kivu est aggravée par l'afflux de nouveaux réfugiés fuyant les combats dans la province voisine. Samuel Ngaruko est gestionnaire des programmes humanitaires pour Oxfam à Goma. Écoutez-le.
Par exemple, ceux qui se trouvent autour de Sake, de Minova, n'ont pas des infrastructures d'eau. Oxfam est préoccupé par la probable flambée de choléra, soulignant aussi que ces déplacés, ils ont perdu leur patrimoine, ils ont perdu tout ce qui peut leur servir de commencer la vie. En plus de cela, on assiste encore à de nouveaux déplacements des gens de Kabare, de Karehe, de Katana vers les différents coins de Bukavu et des îles du lac Kivu. Tous ces événements se sont passés avec une coïncidence de la suspension de l'aide des États-Unis. Avec tout ça, les acteurs humanitaires se retrouvent dans l'incapacité et l'impossibilité d'assister à temps ces familles. On appelle à tous les donateurs de tourner les yeux pour ces populations qui sont souffrantes. Beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui ont besoin de l'assistance. Il y a des millions de gens qui peuvent même arriver à une situation très catastrophique si rien n'est fait.
Samuel Ngaruko, gestionnaire des programmes humanitaires pour Oxfam, il était au micro d'Amélie Tulem. Un conflit en République démocratique du Congo qui devrait être au cœur du 38e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'ouvre, je vous le disais, aujourd'hui à Addis Abeba. Hier, le Conseil Paix et Sécurité de l'organisation s'est réuni pour évoquer la situation sur place ainsi que la guerre civile au Soudan. Réunion à l'issue de laquelle le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé au cessez-le-feu dans les deux pays, le Tchadien, dont la succession est l'un des enjeux de ce sommet. Trois candidats en lice, dont le Kenyan Raila Odinga, présenté comme favori. C'est également ce samedi que débutent les assises nationales au Niger, réunion qui se déroule jusqu'au 19 février prochain pour établir une feuille de route de la transition. Parmi les questions qui pourraient être tranchées, celle de la durée de cette dernière, alors que le président Tchiani avait évoqué une période de 3 ans au moment du putsch de juillet 2023. Près de 700 délégués doivent participer aux négociations, dont des membres de l'administration, de la société civile, mais aussi de l'armée. Toujours suspendus, les partis politiques ne sont eux pas conviés. L'ordre des avocats fait savoir qu'il ne participera pas à ces négociations. Le déroulé de l'élection présidentielle se précise un peu plus, cette fois au Gabon, scrutin prévu pour le 12 avril prochain et qui doit permettre d'avancer sur la transition débutée en août 2023. Réuni en Conseil des ministres jeudi, le gouvernement a adopté une série de décrets relatifs à l'organisation de cette élection. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Yves-Laurent Goma.
Selon le communiqué du gouvernement, les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer leur déclaration de candidature d'ici moins de 3 semaines, du 27 février au 8 mars prochain. Le texte ne le dit pas, mais selon le code électoral, les frais de candidature qui étaient à 20 millions sont passés à 30 millions de francs CFA. La campagne électorale se déroulera durant 14 jours seulement. Elle s'ouvrira le 29 mars et prendra fin le 11 avril, soit un jour avant le vote prévu le 12 avril. Chaque candidat doit déposer à la Cour des comptes son budget de campagne qui prévoit toutes les dépenses à effectuer durant la période. Aucun plafond n'a été fixé. Cette disposition n'existait pas sous l'ancien régime. Autre nouveauté, tous les candidats seront sur une liste unique. Durant des décennies, l'opposition réclamait à corps et à cri ce bulletin unique, mais le pouvoir ne l'avait jamais accepté. À ce jour, aucun poids lourd de la vie politique ne s'est encore porté candidat à cette élection. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
La représentante du programme alimentaire mondial au Burundi, officiellement expulsée du pays, Sybille Hosson-Mario, a été contrainte de quitter le territoire hier par avion. Et elle a quitté en compagnie de la chargée de sécurité de l'organisation onusienne, conséquence d'une décision des autorités qui accuse la dirigeante et sa collègue d'atteinte à la sûreté de l'État. En cause, une consigne transmise au personnel qui leur intime l'ordre de faire des stocks de denrées en prévision d'une éventuelle crise sécuritaire, une incitation au désordre donc selon les autorités. En Ouganda, Kizza Besigye n'en a toujours pas fini avec la justice, déjà inculpée pour trahison. L'opposant historique au président Yoweri Museveni a comparu hier devant un tribunal civil à Kampala. Cette fois, il doit répondre d'accusations d'incitation à la violence liées aux manifestations qu'il avait organisées en 2022 contre la vie chère. Cette nouvelle comparution intervient alors qu'il était jusqu'ici poursuivi devant un tribunal militaire, une procédure jugée illégale par la Cour suprême il y a 2 semaines. Décision qui aurait donc dû entraîner l'abandon des poursuites contre lui. Toujours en détention, Kizza Besigye a entamé une grève de la faim pour protester contre son maintien en prison. Une action qui inquiète ses proches et pour son avocat, Maître Kato Tumisime, les autorités ougandaises cherchent par tous les moyens à le maintenir en détention. Écoutez-le, il est au micro de Christina Okello.
Ils ne peuvent plus le maintenir en détention pour des accusations de trahison ni pour possession illégale d'armes, car les mandats de détention provisoire émis par le tribunal militaire sont arrivés à expiration. Mais pour le garder en prison, ils doivent maintenant fouiller les archives et ressortir d'anciennes affaires en espérant pouvoir fabriquer des témoins qui témoigneraient contre lui afin de justifier en apparence une détention légale. C'est pour cette raison qu'il relance tous ces vieux dossiers. Je pense que la grève de la faim, entamée par le docteur Besigye, joue aussi en leur faveur. L'objectif du fils du président, le général Muhoozi Kainerugaba, est clair, voir le docteur Besigye mort, quel que soit le moyen. Lorsqu'il n'existe aucun mandat de détention valide, aucun fondement légal ne justifie son incarcération. Nous sommes très inquiets pour son état de santé. S'il poursuit sa grève de la faim, les conséquences sur sa vie et sa santé seront graves. Nous pourrions perdre un grand homme et un combattant infatigable.
Et dans un tweet jeudi, le fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, a suggéré que Kizza Besigye, je cite, accélère sa grève de la faim et en finisse rapidement avec sa vie. Lourd bilan après une attaque non revendiquée Mali, dans l'ouest du Burkina Faso. Une dizaine de volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée, ont été tués il y a deux jours dans un assaut qui a visé la localité de Tiendougou, dans la région des Cascades. Selon une source locale, des hommes lourdement armés et en grand nombre ont attaqué une patrouille des forces armées burkinabées en provenance de Banfora. Hier, d'autres attaques ont visé les villes de Djibo, dans la région du Sahel, et à Tanwalbougou, dans la région de l'Est, où six gendarmes avaient déjà été tués il y a deux jours. Et puis au Cameroun, Human Rights Watch met la pression sur les autorités. Cinq ans après le massacre de Ngarbou, le 14 février 2020, dans la région anglophone du Nord-Ouest, des soldats et des supplétifs de l'armée gouvernementale camerounaise attaquaient le village soupçonné de collaborer avec les séparatistes. Au moins 21 habitants, dont 13 enfants, sont alors tués. Certains corps retrouvés calcinés dans des maisons incendiées. Cinq ans plus tard, le procès de deux soldats et d'un gendarme est toujours pendant devant le tribunal militaire de la capitale Yaoundé, loin du lieu du massacre. Lewis Mouj de l'organisation Human Rights Watch appelle les autorités à faire avancer les choses pour que justice soit rendue et que des officiers supérieurs soient inculpés.
5 years on.
Cinq ans après, c'est une insulte pour les familles des victimes que seuls deux soldats et un gendarme fassent l'objet d'une enquête, alors que les recherches que nous avons menées et d'autres enquêtes ont indiqué qu'il s'agissait certainement d'une vengeance perpétrée par les forces de sécurité camerounaises avec des milices Peul et que des commandants supérieurs ont eu une part de responsabilité. Pour nous, à Human Rights Watch, cette affaire est devenue emblématique de l'impunité des forces de sécurité et de l'état du système judiciaire. Cinq ans après, nous commençons à penser que si ce procès traîne à un rythme si lent, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et nous pensons que cette raison, c'est que le système judiciaire camerounais ne veut pas que la justice soit rendue. Est-ce le fait de sa propre volonté ou à cause de pression? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'après 5 ans, les excuses pour justifier les retards deviennent intolérables.
5 years later is that excuses for the delays are becoming intolerable.
Allez, oui, Smudge de l'organisation Human Rights Watch, il était au micro d'Amélie Tullet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouvez Julien Coquel-Rohem pour la suite de RFI Matin.